Voici les titres du journal.
Le trafic ferroviaire devrait rester interrompu toute la journée entre Genève et Lausanne à la hauteur de la Tolochna à la suite du trou qui s'est formé hier sur les voies. Des travaux sont en cours. Il y a un peu plus d'une semaine, deux Vaudois ont lancé leur tout premier jeu vidéo, The Mole Men, où les hommes taupes racontent l'histoire d'un révolutionnaire qui veut renverser le pouvoir en place dans la galaxie. Et puis le Valais va offrir un abonnement général culturel à toute personne ayant eu 18 ans en 2021 et qui vit dans le canton. Avec cette mesure, il vise à aider les institutions culturelles à reconquérir le public. Puis les routes limitées à 30 km/h et les zones de rencontre devraient voir le jour. Le plus simple agglomération, le Conseil fédéral a mis en consultation des modifications de l'ordonnance sur la signalisation routière. Et enfin, en hockey sur glace, le coup d'envoi de l'international Chablais Hockey Trophy sera donné cet après-midi à la patinoire du Vernet. Plus tard, c'est la Suisse qui entrera en lice face à la Finlande dès 20h.
Et pour la météo, un temps assez ensoleillé pour aujourd'hui et bien ensoleillé demain. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Frey. Bonjour Quentin.
Bonjour. La situation ne s'arrange pas sur les rails. Le trafic ferroviaire reste perturbé après le trou qui s'est creusé hier sur les voies entre Lausanne et Genève à hauteur de Tolochna. En cause des travaux d'une entreprise qui utilisait un tunnelier 10 mètres sous les rails. Cette nuit, les CFF ont comblé la cavité de 5 mètres cubes, mais un autre trou s'est formé. Depuis, aucun train ne circule sur la ligne Lausanne-Genève, comme l'explique Frédéric Reva. Il est le porte-parole des CFF.
Alors actuellement, le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Genève reste interrompu et il ne sera pas rétabli avant demain dans la matinée, selon nos estimations actuelles. C'est toujours un risque qu'effectivement on ne puisse pas rétablir le trafic demain matin dès les premiers trains. Donc ce matin, on avait réussi à combler le trou, on a pu faire circuler quelques trains entre 4h et 5h, mais malheureusement un nouveau trou est apparu, ce qui nécessite l'interruption totale du trafic ferroviaire pendant toute la journée, le temps de réaliser les travaux nécessaires. Les Régio Express circulent de Genève à Allemand, et puis à Allemand, un bus transporte les voyageurs jusqu'à Morges. Ou à Morges, les Régio Express circulent entre Morges et Lausanne. C'est un transport de substitution qui réduit très fortement la capacité de la ligne Lausanne-Genève. C'est pour ça qu'on invite nos clients à renoncer à leur voyage aujourd'hui.
Mais alors, comment un simple trou peut avoir autant de conséquences? On retrouve Frédéric Reva.
Pendant toute la nuit, on a effectivement comblé le trou, mais malheureusement, une nouvelle cavité s'est creusée, ce qui nécessite alors plus de travaux et puis plus d'analyses, et puis le trafic restera interrompu pendant toute la journée. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le tunnelier finit son travail. Comme ça, on peut évacuer ce tunnelier. Ensuite, il y a des sondages qui sont réalisés, des analyses du terrain pour exactement comment se présente le terrain en dessous des voies. Et puis ensuite, on va probablement poser des ponts provisoires. Ça, c'est encore en discussion. Mais il y a encore toutes sortes d'analyses qui doivent être réalisées pendant la journée. Hein. Donc, effectivement, il y a toujours un risque qu'on ne puisse pas rétablir le trafic demain matin dès les premiers trains. De toute façon, nous allons effectivement opter pour une solution stable qui permette de reprendre le trafic de manière stable.
Voilà, c'était des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac. Et puis bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l'avancée des travaux et de la réouverture de la ligne complète entre Genève et Lausanne.
Quand on parle de fiscalité, le canton de Vaud présente un profil à deux vitesses.
Et oui, de grandes différences sont constatées entre les personnes morales et les personnes physiques. C'est ce qui ressort entre autres choses du baromètre fiscal vaudois. Il a été présenté hier à Lausanne par le cabinet d'audit KPMG et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Parmi les recommandations de ce rapport, la CVCI demande au canton de se pencher sur le barème d'impôt, tant sur le revenu que sur la fortune. Explication de la directrice de la CVCI, Claudine Amstein.
C'est d'ailleurs assez inquiétant parce qu'on voit que 7% des contribuables fournissent pratiquement 40% des revenus. Donc il ne faut pas perdre ces contribuables parce qu'ils pourraient être attirés sur d'autres cieux qui ne sont pas très loin du canton de Vaud. Et donc, s'ils partent, il faudra bien composer cette perte de revenus. Donc aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent sur comment on fiscalise les personnes physiques. On doit rester attractif, on doit garder la classe moyenne parce qu'en fait, l'imposition est extrêmement lourde pour la classe moyenne, pas seulement pour les gros revenus, mais pour la classe moyenne, que soit quand on est propriétaire de sa petite entreprise, comme propriétaire de son logement, comme quand on a un revenu de l'ordre de 125 000 francs bruts, on est imposé de manière très importante. Et si on compare à un autre canton qui a beaucoup d'infrastructures, qui a des écoles et quel canton de Zurich, on voit qu'on a une imposition qui est incroyablement plus élevée et c'est difficile à comprendre.
Quelles seraient peut-être les pistes pour éviter un exode des contribuables face à ce manque d'attractivité pour les personnes physiques dans le canton de Vaud ?
Je pense qu'il faudra s'attaquer à un chantier qui est un chantier important et pas facile, c'est celui du barème d'impôt, pour essayer de redéfinir cette progressivité de l'impôt de façon à garder les contribuables sur ce canton.
Et puis parmi les prochaines étapes majeures, le BEPS 2.0, un projet d'harmonisation fiscale à l'échelle mondiale mis en place par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'idée est de taxer les multinationales dont les chiffres d'affaires dépassent les 750 millions ou les 20 milliards d'euros de manière équivalente à travers le monde.
Un Vevezan et un Yverdonois ont lancé la semaine dernière leur premier jeu vidéo.
Près de 3 ans et environ 3000 heures de travail auront été nécessaires aux deux ingénieurs logiciels pour venir à bout de ce projet. The Mole Men, ou Les Hommes Taupes en français, est désormais disponible sur la plateforme en ligne Steam. Il s'insère dans la catégorie roguelite, un terme bien connu des habitués de ce type de jeu, mais beaucoup moins pour les profanes. Le Vevezan Samuel Mayer, co-créateur du jeu, nous en dit un peu plus.
Donc le style de notre jeu, c'est un roguelite. Ça regroupe plusieurs caractéristiques qui font d'un jeu un roguelite, qui sont ce qu'on appelle la permadeath. C'est quand on meurt dans le jeu, la partie est terminée, on recommence tout. C'est la mort permanente. C'est aussi le fait que tous les niveaux et d'autres aspects du jeu sont générés aléatoirement. Ça veut dire qu'à chaque partie, l'histoire, le monde sera différent. Et ce, généré par des algorithmes. Donc aucune partie n'est la même. Et puis, on appelle ça la métaprogression. C'est le fait de pouvoir débloquer des nouveaux objets, de nouvelles compétences, plein de choses entre chaque partie. Donc, une fois qu'on meurt, une fois qu'on termine le jeu, on va avoir par exemple un score qui font que les prochaines parties seront plus complètes ou plus avancées ou peut-être plus faciles.
Et mettre au point un jeu vidéo presque de A à Z n'est pas une tâche aisée. Les deux compères sont passés par plusieurs états, car même si de l'extérieur la conception d'un jeu peut paraître amusante, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On écoute Félix Perrin, il est l'autre co-créateur de ce jeu.
Le début de la programmation du jeu est vraiment très très fun à faire pour les développeurs. Ça va vraiment être sur les finitions, les petits détails sur la fin. Plus le projet avance, plus ça devient difficile d'avancer, de trouver la motivation et de faire tout ça. On a dû beaucoup retourner en arrière sur des choses qu'on avait fait parce qu'on connaissait pas, on savait pas exactement ce qui se faisait. On a fait beaucoup de travail pour rien au final, mais finalement on a beaucoup appris aussi de ça. Mais c'est vrai que le même travail on aurait pu le faire en 2 ans au lieu de 3 si on avait eu plus d'expérience au départ.
Et puis en ce qui concerne la trame de The Mole Men, le joueur incarne un révolutionnaire qui veut renverser le pouvoir en place dans la galaxie pour finir par affronter le boss final. Le jeu est disponible sur la plateforme en ligne Steam.
Le Valais va offrir un abonnement général culturel à chaque personne ayant eu 18 ans en 2021 et résidant dans le canton.
Et oui, avec cette mesure, une première en Suisse, les autorités souhaitent soutenir les lieux culturels qui peinent à faire revenir le public après les fermetures provoquées par la pandémie. En effet, avec chaque entrée, avec un AG culturel, l'association du même nom qui gère les abonnements rembourse les lieux partenaires. Un avantage pour les institutions donc, mais aussi pour les jeunes. Ils pourront se rendre dans près de 80 lieux en Valais, mais aussi dans d'autres cantons participants comme le Jura, Neuchâtel ou encore Fribourg. Une manière pour les autorités valaisannes de créer une habitude culturelle, comme l'explique la chef de la section encouragement des activités culturelles de l'État du Valais, Hélène Joyce Cagnard.
On se rend compte que les habitudes peuvent se perdre très vite, mais surtout chez les jeunes, il faut déjà la créer, cette habitude. Donc l'idée, c'est de la créer par le fait que ces jeunes reçoivent cet abonnement et qu'ensuite, et si ça leur a plu, qu'ils le reprennent. Nous pensons aussi que les jeunes sortant plutôt en groupe, si l'un a un abonnement, que ça motivera son groupe d'amis à prendre son abonnement aussi.
Concrètement, ça va se passer comment ?
Alors, les communes nous communiquent le nombre de jeunes de 18 ans qu'elles ont dans leur commune. Nous leur envoyons le nombre de bons cadeaux qui correspondent au nombre de jeunes. Ces jeunes activent sur le site de l'AG culturel ce bon cadeau et reçoivent leur abonnement directement par la poste à la maison, à moins que des communes aient encore des promotions civiques, hein, puisqu'on est à la fin de l'année, que c'est l'époque des promotions civiques. À ce moment-là, elles peuvent le distribuer directement lors de cette manifestation.
Honnêtement, vous croyez vraiment que ça va marcher ?
Alors, la prise de risque est là, hein, c'est une première, mais c'est aussi pour nous une action pilote et nous en mesurerons les effets fait au fur et à mesure durant l'année prochaine. Mais ça n'est pas la seule mesure qui est finalement un test pour nous. Hein. Nous avons aussi développé des bourses à la recherche, des bourses à la relève. Et toutes ces mesures, nous allons évaluer si elles ont eu un impact, si elles sont... Alors nécessaires maintenant, elles le sont, mais nous évaluerons si dans le futur, dans un retour à la normale, ces mesures restent nécessaires. Oui.
Dans le fond, pour terminer sur une note un peu positive, cette pandémie finalement a permis aussi de se réinventer.
Alors c'est ça. On peut voir en effet des effets négatifs, mais on peut voir ces effets positifs que ça permet la réinvention, tout à fait.
Et voilà, c'était Hélène Joyce Cagnard au micro de Léa Journaux. Cet abonnement général culturel existe depuis 2012 sur l'idée de plusieurs acteurs du milieu, dont Lorenzo Malaguerra, directeur du théâtre du Crocheton. Ce n'est certes pas la généralisation des zones 30 en localité, mais un pas important est franchi pour faciliter l'instauration de limitations de la vitesse à 30 km/h. Le Conseil fédéral a décidé ce matin d'assouplir les conditions de création de zones 30. Des explications à Berne de Serge Jubin.
Le Conseil fédéral met en consultation jusqu'à fin février une modification d'ordonnance qui facilite grandement la création de zones où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Actuellement, il faut une expertise et le 30 à l'heure n'est possible que pour atténuer certains dangers particuliers, limiter les atteintes excessives à l'environnement et améliorer la fluidité du trafic. À l'avenir, le simple fait de vouloir améliorer la qualité de vie pourra suffire. Il faudra toujours une décision formelle et une publication. Pas question toutefois de généraliser le 30 à l'heure en localité. Le Conseil fédéral limite cette possibilité aux routes d'intérêt local. Pour les routes affectées à la circulation en général, la vitesse demeurera en principe limitée à 50 km/h. Autre décision du Conseil fédéral, il veut encourager le covoiturage et octroyer des droits particuliers aux voitures qui transportent plusieurs personnes. Une signalisation permettra à ces véhicules d'emprunter des voies de circulation particulières, celles réservées aux bus par exemple.
C'était des précisions de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Puis le Conseil fédéral veut donc également favoriser le covoiturage pour réduire les surcharges de trafic et la pollution. À cet effet, il propose d'introduire un symbole covoiturage justement dans l'ordonnance, montrant plusieurs personnes à son bord. Puis à l'étranger, le nouvel émissaire américain pour l'Afghanistan doit rencontrer des représentants talibans pour la première fois demain au Pakistan. Des diplomates chinois et russes assisteront également à ces réunions qui se tiendront à Islamabad. Il s'agira du premier déplacement de Thomas West dans la région depuis sa nomination en octobre, juste après le retrait américain qui a précipité le retour au pouvoir des talibans en août. L'émissaire prévoit également de se rendre en Russie et en Inde de près Washington. En hockey sur glace, le meilleur de la relève s'affronte dès aujourd'hui à Montet. La première journée de l'international Chablais Hockey Trophy se tient dès 14h à la patinoire du Vernet. Le match d'ouverture du tournoi chablaisien U18 opposera les États-Unis à la Suède. Puis, dès 20h, ce sera au tour de l'équipe de Suisse d'entrer en scène. La formation helvétique défiera la Finlande et pour battre les Nordiques, il faudra une ligne offensive efficace. Côté Suisse, on comptera notamment sur le Sierrois Cyril Pont. L'attaquant qui évolue à Lausanne s'attend à des oppositions compliquées.
C'est sûr que ça va être très dur. C'est des très bonnes équipes qui viennent d'ailleurs, mais on n'a rien à perdre. Toute l'équipe est motivée, ça se voit depuis le début. Et je pense qu'on a moyen d'aller assez loin dans le tournoi. Évidemment, c'est d'être les meilleurs possibles. Si c'est les meilleurs, mais pas forcément les meilleurs du tournoi, ça reste un succès. Et pour moi, c'est d'être repéré par du monde et de propulser ma carrière.
Et au-delà de la compétition qui s'annonce intense, les jeunes joueurs qui évolueront sur la glace du Vernet seront minutieusement scrutés. En effet, plus de 200 recruteurs venus du monde entier sont attendus du côté de Montet. Pour le martignorin Loris Huberti, portier de l'équipe de Suisse, c'est la possibilité d'effleurer ce rêve de devenir joueur professionnel. On l'écoute.
C'est clair que c'est un rêve de gosse. Après, on peut pas dire que je suis pro, encore loin de là. Il y a encore beaucoup de travail à faire et ça, je le sais. Mais c'est que motivant, justement. C'est que quelque chose qui nous booste, quoi. C'est vraiment quand on peut voir, je pense, les portes du monde professionnel, c'est quelque chose de dingue, ça nous booste à fond, quoi.
C'était des propos recueillis par Julien Traxel. L'international Chablais Hockey Trophy commence donc cet après-midi et va vivre sa 13e édition. Dès 14h, le premier match opposera les États-Unis à la Suède, puis à 20h, la Suisse entrera en lice face à la Finlande.
En football, l'attaque de l'équipe de Suisse est décimée.
Alors que le sélectionneur Murat Yakin doit déjà se passer d'Aris Seferovic, Brel Embolo et Steven Zuber, Mario Gavranovic pourrait lui aussi manquer à l'appel. Touché à un pied, le Tessinois est incertain pour le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, prévu vendredi en Italie. Pour faire face à ce nouveau coup du sort, le coach national a convoqué Cédric Itten, l'attaquant de Greuther Fürth en Allemagne. De son côté, l'Italie devra composer sans Ciro Immobile, le buteur de la Lazio, est blessé au mollet gauche. Et puis, football toujours, troisième journée du groupe A de la Ligue des Champions féminine. Hier soir, au stade Genevois de la Praille, Servette Chénois s'est lourdement inclinée sur le score de 7-0 face à Chelsea. Les Genevoises devront donc encore patienter avant de récolter le premier point de leur histoire dans cette compétition. Avant leur défaite d'hier soir, en effet, les championnes de Suisse se sont déjà inclinées 3-0 contre la Juventus, puis 5-0 face à Wolfsburg pour leurs deux premières sorties. Au classement, Chelsea est en tête avec 7 points devant Wolfsburg. 5, la Juve est 3e avec 4 points et Servette ferme la marche avec 0 point. Prochaine rencontre pour les Servettiennes le 18 novembre contre Chelsea.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Evosun à Massonger, borne de recharge solaire photovoltaïque et toiture, votre partenaire pour faire le plein d'énergie. Devis sans engagement sur evosun.ch.
Un temps assez ensoleillé est prévu pour cet après-midi par Météo Suisse avec des passages nuageux de haute et moyenne altitude, parfois épais à partir du sud. Il va faire 10 degrés en pleine, 11 à 1000 mètres et 10 à 2000 mètres. Pour demain, le temps sera bien ensoleillé avec quelques bancs de brouillard possibles le matin sur la Riviera. Le mercure va passer de 5 à 12 degrés en pleine, de 6 à 12 à 1000 mètres et de 7 à 10 à 2000 mètres.